Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder le descente de ma
chute.
Je regarde si Alex se soulève.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Antichlec est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. L'Antichlec est lâché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre sortie du dimanche où nous allons aborder l'actualité vélo de la semaine écoulée et celle à venir. Voilà, pour nous accompagner ce soir, on retrouve Greg.
Salut tout le monde.
Puis Benjamin.
Bonsoir tout le monde.
Et également Grégory.
Salut tout le monde.
Et bonsoir à vous, cher commissaire. Voilà, nous avons donc une semaine qui commence à se densifier par rapport au tout début de saison, avec pas mal de courses à travers le monde. On commence à quitter les latitudes tropicales et celles de l'hémisphère sud pour commencer aussi à courir en Europe. Et donc nous avons pas mal de courses à aborder aujourd'hui, avec notamment une course qui en était à sa première édition cette année, le Saudi Tour, donc le Tour d'Arabie Saoudite, donc où nous avons vu principalement une bataille entre sprinteurs, mais pas que. Un parcours un peu particulier, hein, qui ne pouvait pas forcément permettre, c'est vrai, aux puncheurs ou aux grimpeurs de pouvoir s'exprimer. Néanmoins, on a vu quand même quelques petites choses assez intéressantes. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je vais demander d'avoir ton avis à toi, Greg.
Est-ce que je pense que l'information que je retiendrai, c'est la renaissance de Nasser Bouhanni. Alors, même si, voilà, bon, peut-être qu'on reparlera du sprint un petit peu litigieux à la fin, mais bon, il n'avait pas gagné une course depuis 2018. Il a vécu une année 2019 catastrophique. Et le revoir, donc gagner une étape et jouer la gagne jusqu'au bout, je pense que c'est prometteur et intéressant pour la suite de la saison.
Oui, tu confirmes aussi cette impression, Benjamin ?
Benjamin qui n'a pas.
Allô ?
Oui, c'est moi qui oublie de réactiver mon micro.
D'accord.
Désolé, c'est la première de l'année. Bref, c'était sympa de revoir Nasser Bouhanni aux avant-postes, mais au-delà de ça, c'est qu'il semble beaucoup plus épanoui dans son équipe qu'il ne l'était chez la Cofidis, en tout cas l'an dernier. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sourire, notamment. Et sur une course qui n'était pas si facile au niveau parcours, bon, on l'a vu à la bagarre tous les jours, là où peut-être l'an passé, un peu miné par les problèmes internes qu'il y avait au sein de sa team, il ne s'accrochait pas. Là, on a vraiment revu le Bouhanni costaud. Donc, au-delà de la victoire d'étape, c'est vraiment le comportement en course que j'aimerais souligner pour le Français, qui échoue de très peu pour la victoire au général.
Oui, puis surtout, on l'a vu aussi à l'aise sur des passages. On avait un peu oublié que lui-même, il sait passer les bosses, hein, également. Donc, il envoie des signaux plutôt positifs. Est-ce que tu confirmes cette impression, Grégory ?
Oui, c'est vrai que par le passé, lorsqu'il était chez les jeunes, Bouhanni avait l'habitude d'être assez performant. Dès qu'il y avait des petites bosses, enfin, c'était pas du tout son point faible où il se faisait larguer comme certains autres sprinteurs l'ont montré plus tard. Mais ouais, c'est vrai que c'est encourageant ce qu'il a fait. Déjà, il est tous les jours dans le top 5 sur ce tour de Saudi Arabia. Après, c'est peut-être légèrement à relativiser au vu du plateau, mais c'est encourageant pour la suite. Et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, on a vu qu'il était épanoui, qu'il souriait. En tout cas, il s'est relancé dans une dynamique positive. Donc, ce sera à voir sur la suite de sa saison comment il va pouvoir enchaîner d'autres succès, si ça va le faire ou pas déjà.
Oui, Bouhanni qui va d'ailleurs gagner sa place sur le Tour de France, hein, puisque il n'est pas dans les coureurs pour au moins sûr d'y être.
Oui, j'ai appris ça effectivement au cours de la semaine et également sur le forum. C'est vrai que c'était un peu surprenant de considérer quelqu'un comme Boigny n'était pas assuré d'avoir sa place sur le Tour de France. Bon, c'est vrai que Arkea mise sur Quintana, sur Barguil, donc vise plutôt un bon classement général. Maintenant, on sait que les places sont chères. Le parcours du Tour de France n'est pas non plus particulièrement favorable au sprinteur. Ce sera à lui de prouver en fait qu'il a sa place. C'est plutôt un bon début, effectivement assez encourageant. On a vu des petites choses qu'on n'avait pas forcément comme ça l'habitude de voir sur cette épreuve, hein, notamment Rui Costa attaqué. Il faut quand même le souligner.
Loin de l'arrivée en plus.
Et assez loin de l'arrivée, hein, plusieurs fois. On a vu également eh bien une équipe Bahrain-Merida qui faisait plutôt plaisir à voir, hein, assez bien rodée, avec un Henri Chosselaire presque revenant aussi. Hein, il a failli remporter une étape en finisseur.
Incroyable.
Oui, et ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça à son avantage. Et dans cette équipe, on avait également un Mark Cavendish dans un nouveau rôle finalement, qui lui réussit pas si mal. Je ne sais pas ce que vous en avez
Ouais, il finit
pensé.
comme mes ailes.
Oui. Oui, peut-être, c'est ça, voilà. En poisson pilote pour Baos, notamment.
C'est quand même une fin de carrière. Alors c'est bien et en même temps, c'est bien de voir un tel champion se muer en équipier et en même temps, je me demande si l'étape que Boss remporte ou Cavendish fait la cassure, c'était pas le gros passage de relais avec un Cavendish qui même amené comme il le faut, n'a plus les jambes tout simplement pour participer convenablement à un sprint. J'ai vraiment eu cette image. Tout le monde a salué, oh, c'est un génie qui avait dit tout ça. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il pouvait pas. Qu'il pouvait pas et qu'il a quand même eu l'intelligence de faire en sorte d'avantager sur son équipier à ce moment-là.
Vous confirmez, Greg?
Oui, bah, c'est un peu cette impression-là, on le voyait. Enfin, c'est là aussi, un peu comme Boigny, ça fait du bien de le revoir souriant à la fin des courses. Enfin, là maintenant, c'est dans le rôle d'équipier, mais voilà, l'image de fin quand il félicite Bauhaus pour la victoire de la dernière étape et pour la victoire finale. Voilà, Cavendish, il y a quand même eu de sacrées galères, de sacrées chutes ces dernières années. Alors qu'il gagnait tout, faut se rappeler qu'à sa grande période, il était quasi invincible. Il a gagné je sais plus combien d'étapes même sur le tour. Et donc voilà, le revoir, mais bon, dans ce rôle d'équipier, je trouve que c'est bien. Peut-être c'est comme ça, il se remotive, il a peut-être moins de pression aussi. Donc c'est intéressant pour lui, pour son équipe. Et voilà, ça fait aussi plaisir. Hein, c'est un peu le tour des finalement, c'est le tour des revenants, ce tour d'Arabie Saoudite.
Un peu oui, c'est vrai que même Rui Costa, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu autant sans avantage. On a aussi une belle victoire assez intelligente de Bonifacio, qui, eh bien, parfois, on va dire, l'intelligence de pouvoir sortir un peu de son registre de pur sprinter pour pouvoir bah, l'emporter un peu en malin, hein, en finisseur, c'était lors de la deuxième étape. Voilà, donc aussi une façon de mettre Direct Energy peut-être aussi sur de bons rails.
Ouais. Non mais elle est rafraîchissante cette victoire. Je trouve ce coureur très sympathique à suivre. C'est un sprinter mais qui n'attend pas forcément les sprints pour l'emporter. Moi ça me plaît vraiment le comportement de ce coureur. Donc j'espère vraiment qu'il continuera à faire ça et surtout que ça paiera.
Oui, comme ça a pu payer parfois et comme ça a payé effectivement sur cette seconde étape du Saoudi Tour.
Et
Écoutez,
c'est Ben, excuse-moi, je te coupe.
oui.
Ben qui nous dit sur le chat que Geoffrey Soupe termine 9e également pour sa première course avec le maillot Total Direct Energy. Lui aussi, c'était un peu perdu chez Cofidis. Hein, c'était quand même pas. Il était plus connu pour ses résultats. Il était à un poste de poisson pilote qui ne marchait pas trop. Et là, dès la première course, il fait un top 10. C'est pas mal à souligner.
Oui, un bon comportement effectivement du français. Ça faisait assez longtemps qu'on ne l'avait pas vu autant à son avantage, tout à fait. Voilà. Bah écoutez, je vous propose là de clore le chapitre sur cette course et de passer maintenant au Tour de Valence. Alors, Tour de Valence qui a commencé un peu sur des, on peut dire sur les chapeaux de roue hein, pour Tadej Pogačar qui continue en fait à marcher sur les bases très élevées sur lesquelles il avait commencé à nous habituer déjà l'année dernière après son très beau Tour d'Espagne. Déjà en 2019, il avait commencé, je crois, l'année tambour battant. Là, il signe une victoire très convaincante. On retrouve d'ailleurs sur le podium plutôt des jeunes. Hein. Derrière, on a Jacques Haig, puis Tao Geoghegan-Hart. Voilà, devant Dan Martin qui signe en fait la même place qu'il avait signée déjà l'année dernière. Un top 10 d'ailleurs relativement solide, où on serait presque étonné, voire déçu pour certains, de retrouver Valverde seulement à la 10e place. Alors, j'ai envie comment dire, de vous lancer avec une question un brin provocatrice. Est-ce que cette année, c'est vraiment l'année du déclin pour le grand champion espagnol? Greg.
C'est un peu ce qu'on dit chaque année, donc on verra bien maintenant. Voilà. C'est vrai que Damien avait l'habitude que sur ses courses de début d'année, eh bien, il soit beaucoup plus à son avantage. C'est vrai que, et puis à l'âge avançant, il y a bien un moment où forcément ses résultats vont être un peu moins bons, ses performances vont être un peu moins bonnes. Peut-être aussi que, voilà, à l'âge avançant, il y a moins de punch. Et face à des petits jeunes qui veulent gagner, qui sont assez offensifs comme Pogacar, forcément, ça devient compliqué. Enfin, plus généralement, quand même, c'est pour la Movistar que c'était une semaine un peu compliquée à Valence. Parce que Valverde se plante un peu ou ne soit pas au top de sa forme, c'est une chose. Mais derrière, on pouvait attendre mieux de Soler, notamment. Par exemple, c'est pour toute l'équipe Movistar, finalement, que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, que c'était une mauvaise semaine pour Movistar.
Est-ce que tu partages cette impression, toi aussi, Benjamin?
Je me garderais bien de tirer des conclusions sur Alejandro Valverde. Déjà qu'on aurait pu croire qu'après Puerto, il disparaisse et le revoir revenir plus fort. Qui l'aurait parié à ce moment-là?
Vrai que chaque année, ça revient un peu comme une ancienne, hein, le déclin de Valverde, le déclin de Valverde. Mais il est toujours là.
C'est vrai que 10e sur une course comme ça, peut-être qu'on l'attendait un peu mieux. Si on regarde les 2 dernières années, il faisait podium, voire même il gagnait cette épreuve. Si on regarde les saisons précédentes, il a tout le temps gagné en Espagne sur les premières épreuves de la saison. Peut-être, après, la question du déclin, il fait de super performances l'an dernier, notamment seconde du Tour d'Espagne. Mais est-ce que sur toute une saison, il n'y avait pas une petite baisse? Je ne sais pas, c'est Alejandro Valverde, c'est une anomalie. Forcément, j'ai fait un petit clin d'œil à Puerto, mais on ne peut pas tout expliquer par le dopage, hein. Quelles que soient les croyances des uns et des autres envers lui, puisqu'au final, seul lui sait ce qu'il fait, ou pas d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est quand même beau, un coureur qui tient aussi longtemps. Et on a également, sans parler du déclin de Valverde, on a peut-être également une poussée des jeunes depuis 1, 2 ans qui poussent les vieux, entre guillemets, dehors. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Remco Evenepoel et a raison de tout ce qu'il fait. Pour ma part, même s'il a un an de plus, je trouve Tadej Pogacar, pour ma part, hein, seulement, beaucoup plus impressionnant dans un rôle de coureur de grand tour. Bien sûr, en contre-la-montre, le Belge est plus fort. Et d'ailleurs, je compare, désolé, hein, je pars un peu hors sujet par rapport à l'Alverde, mais je comparerai les 2 saisons, celle de l'an dernier de Pogacar et celle de cette de Evenepoel. Tout ça pour dire que, est-ce que c'est pas ça justement, tous ces jeunes qui arrivent? Qui font reculer certains vieux, qui augmentent le rythme des courses même dès le début de l'année, et qui font que certains coureurs comme Valverde sont moins impressionnants. C'est la question que je me pose, mais je veux surtout pas juger de l'état de forme de l'Espagnol sur une seule course.
Oui, faut pas oublier quand même qu'on est toujours en reprise, hein, début février. Donc c'est très difficile de se mettre à faire des conclusions à partir d'une course qui s'est déroulée sur 5 jours et qui était la course de reprise pour beaucoup de monde là-dedans. On voit néanmoins qu'effectivement Pogacar commence sur à peu près les mêmes bases que l'année dernière, des bases plutôt élevées. C'est plutôt encourageant pour la suite de sa saison. Mais par rapport à celle de Valverde, voilà, c'est peut-être un peu s'avancer. Hein. Évidemment, ma question était volontairement, on va dire, provocatrice.
Oh là,
non, mais
quel
après, c'est
provocateur
surprenant
ce
parce que
match.
je ne sais pas si vous avez vu l'étape Rennes. C'est vrai qu'il semblait, au-delà de la place, complètement arrêté.
Ah ouais, il a pris un gros tir quand même. Mais c'est
Il
surtout
termine même pas
l'écart
dans
qui
le
compte.
top 10 hein, sur cette étape.
Une dernière chose à rajouter aussi, peut-être sur cette course au niveau des sprinteurs. Groenewegen a remporté déjà deux étapes, puis Jacobsen, la dernière, celle du jour, justement devant le Néerlandais. Bon, tous les deux, a priori, envoient aussi des signaux assez encourageants. Le premier sprint, hein, surtout de Groenewegen, était assez impressionnant. Il a été bien décortiqué sur Twitter. On le voit partir de très très loin avant de remonter vraiment comme une balle. Ça pose des bases plutôt rassurantes pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, Grégory.
Ouais, Groenewegen, bah une fois qu'il est là, quand il arrive à être emmené bien comme il faut, il est très impressionnant, parfois même le plus impressionnant des sprinteurs. C'est vrai qu'il n'arrive pas forcément toujours à mettre tout bout à bout pour bien remporter tous ses succès, mais ouais, c'est vrai une fois que tout est bien en place, il s'impose assez souvent et parfois avec une manière impressionnante, on a l'impression qu'il est beaucoup plus fort que la plupart des autres sprinteurs. Donc ce sera à voir lui aussi par la suite s'il arrive à confirmer, on va dire, qu'il est vraiment dans les tops du sprint, enfin vraiment le top du top, quoi, pas forcément juste le top 5 mondial, quoi.
Oui, on a une hiérarchie qui peine à se dessiner clairement ces dernières années, hein, avec beaucoup de sprinteurs quand même très proches les uns des autres. On sait que le Néerlandais, en tout cas, en fait partie, à voir aussi si il va gagner progressivement de la caisse pour les classiques, qui en général, bon voilà, type de parcours qui lui conviennent un peu moins que les étapes en ligne. Voilà, est-ce que vous vouliez rajouter une dernière chose sur ce tour de la communauté de Valence ou nous pouvons passer à Bessèges, cher commissaire?
Non, juste, c'est amusant, 5 étapes seulement, 3 vainqueurs différents. Ça a vraiment été une mainmise des hommes en forme, cette course. Et pardon,
Ineos.
Ineos, ouais. On les a revus un peu faire leur trait, mais encore une fois, cette tactique montre ses limites quand il y a un coureur qui est supérieur à eux. Il faut vraiment qu'ils aient le meilleur coureur pour que ça marche. Et
Ineos,
les
dont on
avons
attend toujours la
sortis.
première victoire encore cette saison. Hein. C'est une des rares World Tour à ne pas l'avoir encore remportée cette année.
Et ouais.
Et oui, quand on n'a pas de sprinter et quand on n'a plus un Froome au top, c'est un peu plus difficile.
Ça arrivera peut-être au Tour de Colombie.
Voilà, avec la rentrée de Bernal, je pense, qui est attendue.
Et Carapaz.
Les Carapaz, oui. Bien, alors, passons maintenant à Bessèges, qui traditionnellement est une course qui réussit plutôt bien aux Français lorsque ils font leur entrée sur le calendrier. Là, encore une fois, ça s'est confirmé avec, eh bien, on a vu de belles performances, hein, et notamment la victoire, bien sûr, de Conefroy, mais également, on a vu le néo-pro Alexis Brunel se mettre à son avantage. Ils vont réussir à monter sur le podium après avoir remporté une étape. On a vu également, ben, juste derrière, terminant quatrième, un très bon Kevin Genier. Et puis derrière, eh bien, il y a encore les jeunes comme Aurélien Paré-Peintre, hein, qui poussent. Damien Touzet également, on peut le dire, hein, qui fait septième et qui n'est pas très, très vieux. Ben, d'ailleurs, il a le même âge que Paré-Peintre, hein, ils sont tous les deux 96. On pourrait presque croire que la cinquième place de Calmejane est presque anecdotique, tant il a été presque discret, on va dire, sur une épreuve qui en général lui convient bien, mais il termine aussi cinquième. Enfin voilà, une course qui a été assez différente quand même dans sa mise en place par rapport aux années précédentes, parce que cette année, on avait le même jour qu'à Valence avec la montée sur la Bernia, je crois, on avait aussi là la montée sur le Mont Bouquet. Donc deux cols qui arrivaient finalement début d'année, deux cols très difficiles et qui permettaient déjà de voir certains grimpeurs se mettre à leur évidence. Alors, déjà ton impression générale sur la course, Greg, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, je trouvais très intéressante. Déjà, il y a un jour de plus de course que l'année dernière, je crois. Avec un petit peu qu'en plus, on a eu de la chance parce qu'on a eu du vent. Donc, on a eu des bordures et ça a vraiment une bagarre dès la première étape qui a fait la différence aussi, hein, qui a fait quelques écarts pour le général. Et donc, qui a d'entrée de course, on a eu déjà une première sélection. Évidemment, les bordures, quand on est fan de vélo, les images d'hélico avec les éventails qui se forment, c'est toujours une petite sensation particulière. Et
Toi,
puis
t'as
tu as
pas été fan
raison.
de David Moncoutier pour dire ça.
Et donc le Mont Bouquet, comme tu l'as dit, c'est vrai que voilà, ça donne un autre relief aussi à cette course. Et ça la sort un peu, c'est vrai jusqu'à présent, qu'elle ça ronronnait un petit peu, mais voilà, les vainqueurs sont un peu toujours les mêmes. Ça commence aussi à attirer peut-être un plateau plus intéressant comme d'autres courses du sud de la France. Je pense qu'on en reparlera cette année. Et donc, Cosnefroid, donc, il est comme finalement deuxième victoire en deux courses. Il s'affirme comme le coureur français de ce début d'année. Et donc, c'est toujours intéressant sur un parcours voilà assez varié de voir qu'il arrive à briller et qu'il arrive à gagner.
Oui, alors Benjamin, qu'est-ce que pour toi cette victoire, est-ce qu'elle peut lui ouvrir, on va dire, des espoirs sur des courses plus importantes? Parce qu'on
Je
sait que là c'est
pense.
encore en début d'année, mais.
Je pense parce que on l'a vu l'an dernier monter en puissance. Il fait quand même deux top 10 sur des World Tours de fin de saison, c'est-à-dire la Bretagne Classique et le Grand Prix Québec. Il avait gagné le Tour du Limousin également l'an dernier. Là, il gagne quand même une épreuve où il y a un contre-la-montre. Alors certes, il avait un peu d'avance après la première étape suite à ses bordures et cette arrivée en côte, mais je pense que oui. De toute façon, tu gagnes pas la Marseillaise et l'Étoile de Bessèges surtout par hasard, surtout aujourd'hui où ce n'est plus vraiment des courses de préparation où certains ont un véritable objectif. Donc, je pense qu'il s'affirme comme un leader de la G2R la mondiale, notamment pour les Ardennaises, et c'est pas plus mal parce qu'ils n'ont pas forcément de leader pour ces courses-là. Naezen pourrait l'être, mais forcément il se consacre plus aux Flandriennes. Bardet fera sa Liège-Bastogne-Liège, mais il vise le Giro, donc il ne pourra pas être au top sur les Ardennaises. Donc oui, je pense qu'il a une place à prendre et je pense qu'il peut faire quelque chose en World Tour. On rappelle quand même que l'an dernier, je crois qu'il fait 12e de la Flèche Wallonne. Donc il a les capacités pour revenir vite fait sur la course. C'était une très belle course et avec du suspense jusqu'au bout. Et on a vu Alberto Bettiol qui est quand même devenu une pointure dans le cyclisme mondial depuis l'an dernier. Hein, on rappelle qu'il a quand même gagné le Tour des Flandres qui est un monument. Face à des jeunes qui ont tout fait pour l'emporter, pardon. Et si j'ai été surpris par Aurélien Paré-Peintre, je l'ai été encore plus par Alexis Brunel, que je voyais pas capable de résister déjà dans la côte le premier jour. Et il ne s'est pas écroulé sur toute la semaine. Il y a d'ailleurs une image marquante, c'est qu'un Cosnefroid attaque sur la deuxième étape, dans la bosse, faux plat, diront certains. Avant l'arrivée, en haut, c'est lui qui contre. Ça montre qu'il a quand même un sacré caractère. Et même dans ses interviews, si vous les avez écoutées, chaque fois il disait: Non, non, mais je continue à viser la victoire. Je sens que je peux revenir avec le contre-la-montre, tout ça. L'arrivée en côte, le mont Bouquet, je crois, je ne me rappelle plus trop du nom,
Oui, c'est
ne
ça.
me fait pas peur. Tout ça, c'est rare d'avoir un Français qui dit pas, surtout un jeune, oui, bon, on verra, on va prendre les joueurs les uns après les autres, tout ça. Donc, c'est rafraîchissant.
Et toi, Grégory, qu'est-ce que tu as pensé de ce comportement, d'ailleurs, de l'attitude de la plupart de ces jeunes Français qui se sont mis quand même en avant sur cette course? Rafraîchissante aussi?
Rafraîchissante, oui, ça fait du bien de voir des jeunes Français qui n'hésite pas à essayer de bousculer la course et prendre des initiatives, ou tenter même, bah, comme on l'a vu avec Alexis Brunel, justement, d'essayer de gagner la course. Il a beau être professionnel depuis peu de temps, ça ne l'empêche pas d'avoir des ambitions et dès le début, quoi. Et bah, au-delà de ça, on voit quand même dans le classement général, où il y a quand même pas mal de Français finalement dans le top 10, malgré un plateau qui est légèrement meilleur que les saisons précédentes. Et ouais, bah, à côté de ça, on peut regarder aussi certaines performances qui auraient pu faire peur au départ, mais qui finalement s'avèrent relativement correctes, comme Vital Concept, par exemple B&B Hotels, qui a réussi à mettre quand même deux coureurs dans le top 20. On aurait pu avoir peur à l'avance et de voir personne du tout dans les 30 ou 40 premiers du général, comme on a pu le voir parfois l'année dernière. Mais on a vu la légère renaissance d'Arthur Vichot, qui lui n'est pas du tout jeune pour le coup, mais qui revient un petit peu aux affaires. On verra si ça se prolonge par la suite ou pas du tout.
Oui, effectivement, c'est vrai que Arthur Vichot a eu pas mal de problèmes, hein. C'est surtout bon, la dernière saison un peu transparente. Et là, sur un parcours qui n'était pas forcément non plus à sa convenance, on le voit quand même pointer lentement le bout de son nez, donc c'est peut-être rassurant. On a aussi, bon, on va quand même parler aussi du second, parce que il échoue pas très très loin de Conefroy, et sans peut-être petit cafouillage au niveau de la hiérarchie chez EF, il aurait peut-être pu l'emporter. En tout cas, il a montré quand même déjà de très bonnes jambes, je trouve, pour le début de saison. Et cette année, je imagine que Laurent Jalabert sera un peu moins surpris de le voir aux avant-postes sur les classiques flandriennes. Hein, on peut en parler quand même. Il a envoyé des signaux aussi assez encourageants, c'est Alberto Bettiol. Est-ce que
Très
tu.
costaud.
Oui, voilà, on peut le dire, hein, sur la montée du bouquet qui ne correspond pas. Enfin, c'est pas vraiment un berg. Hein, on l'a quand même vu plutôt à son avantage. C'était le meilleur des favoris. Alors bon, il pèse quand même au moins ses 65-70 kilos. Il faut quand même les pouvoir les amener jusqu'en haut du Mont Bouquet. C'était pas forcément gagné pour lui et plutôt rassurant. Je retiendrai aussi la performance du jeune Belge Laurent Huys. Alors il est un peu reculé après le contre-la-montre, mais pareil, un top 10 sur le Mont Bouquet, on s'y attendait pas forcément. Voilà, donc il y a eu des petites surprises comme ça sur cette course, voilà des petites choses assez intéressantes. Bien, écoutez, il nous reste plus beaucoup de temps là déjà pour pouvoir finir. Est-ce qu'on parle vite fait des résultats de la Herald Sun Tour, où on a vu surtout les locaux hein, à leur avantage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, de pouvoir voir des images de la course. C'est pas évident, hein, vu l'heure à laquelle elle se déroule. C'est le jeune Jay Hindley qui confirme devant Sébastien Berwick d'une équipe Conti. Alors, je pense que lui, on le verra bientôt passer à l'échelon supérieur, mais c'est difficile d'en dire beaucoup plus sur cette course, à part aussi avec le jeune sprinter Caden Groves qui s'est mis aussi à son avantage.
Ah, ben, je crois que tu as tout dit.
Ah,
Ouais,
oui, voilà.
pour les images, Max,
C'est
non,
difficile.
nous n'avons pas pu les voir parce qu'à l'éducation nationale, nous travaillons.
Et oui, et puis bon, la course se déroule en général vers voilà, les premières images, c'est vers 1 h du matin, et là, les arrivées entre 3 h et 5 h. Donc,
Je noterai quand même qu'il y a une valeur sûre dans le cyclisme français, c'est sur
Thomas Lebas.
ce exotique, tout à fait, c'est Thomas Lebas encore 8e. Alors que la course avait quand même un certain plateau, il est vraiment très régulier sur ces courses-là. Dès que ça grimpe un peu, il a 34 ans, mais il continue à progresser. Enfin, il continue pas à progresser, mais il continue à être régulier dans ce qu'il fait. Voilà, donc c'est sympa toujours de le voir à la lutte pour être top 10, top 5, voire parfois gagner sur ces courses-là.
Oui, c'est quelqu'un d'assez solide sur le circuit asiatique, effectivement. Il semble s'être fait sa place et comment dire, s'être construit une carrière qui lui plaît apparemment. Hein. Il est content de la vie qu'il mène au Japon. Il doit aussi avoir un meilleur salaire que s'il était probablement dans une équipe française. Et puis, il arrive toujours à être motivé, à répondre présent sur ce type de course. Alors, la semaine prochaine, nous allons avoir bien de nouveau un calendrier assez dense, finalement, avec le Tour de Colombie, suivi ou entre, je crois, il y aura également le Tour de Murcie et également le Tour de Provence qui propose un très beau plateau avec la rentrée notamment de Pinot
Et de Barguil.
et de Quintana, de Barguil. Voilà, donc.
Et le Ventoux.
Et également, oui, effectivement. Alors,
Ah oui,
c'est une
pardon.
des
Le chalet
caractéristiques de cette
Reynard.
saison, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais de voir arriver comme ça des cols quand même assez difficiles dès le début de la saison. On n'avait pas trop l'habitude ces dernières années. Hein. Là, on a vu sur Bessèges, mais également sur le Tour de la Communauté de Valence, puis donc sur le Tour de Provence. Et on aura également en Colombie, de toute façon, une montée qui ne sera pas non plus des plus faciles. Ça change un peu la donne, je trouve. Ça permet peut-être aussi aux grimpeurs de se mettre en jambes peut-être plus vite et à nous de nous faire une idée ou de nous construire également des histoires pour la suite de la saison. Est-ce que vous appréciez ce petit changement dans le parcours, dans les parcours de manière générale, Greg?
Bah, moi je
Oh,
trouve qu'il y
Benjamin.
a. Pardon, vas-y Greg.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Bah,
T'as
moi je trouve
commencé.
que ça manque de sprint. Hein. Parce que vélo, c'est pas pour aller de la montagne, c'est pour regarder les sprints avec des. Non, bien sûr, je pense que vous me direz ce que vous en pensez, mais on ne peut que s'en réjouir. Et de toute façon, quand on regarde le plateau des différentes courses et le déroulé de l'étoile de Bessèges, par exemple, je crois que c'est gagnant-gagnant, en fait. Hein. Tout le monde trouve son compte. Voilà.
Oui, vous confirmez,
Oui, tout
Greg?
à fait. On a suffisamment râlé sur enfin, le nombre d'étapes ou de courses réservées promises aux sprinteurs, que là, pour une fois que ça, voilà, on voit d'autres profils de courses, d'autres profils de coureurs peuvent s'imposer. Donc ça permet aussi d'avoir une start list un peu plus variée. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de top sprinter hein, à la Provence, hein, enfin, ou très peu. Donc
Non, bah le parcours s'y prêtait pas vraiment à en faire venir finalement, hein. Voilà.
Ça annonce peut-être une course, voilà, des courses peut-être un peu plus intéressantes à suivre pour cette semaine.
Tu confirmes, Grégory?
Ouais, puis c'est vrai que bah c'est vrai qu'avec les nouvelles réglementations UCI et puis les nouveaux statuts de course entre les 2.1 et maintenant les 2 Pro et puis le World Tour, il y a quelques bah finalement et quelques coureurs à attirer par-ci par-là pour bien agrémenter ces start list et puis c'est bien ouais c'est bien de faire tourner un peu au niveau des parcours et de pas avoir tous les ans un parcours pour le même type de coureur donc c'est bien pour le Tour de la Provence notamment d'avoir une arrivée au Ventoux même si bien sûr c'est pas au sommet mais c'est très bien de proposer un parcours cette fois-ci pour grimpeurs et pas comme tous les ans sur certaines courses uniquement pour des puncheurs baroudeurs et pour grimpeur, pour une fois, c'est pas mal.
Voilà. Alors, il y a une petite crainte, c'est vrai que je l'ai lu aussi sur le forum, on le redit là sur le chat, peur que éventuellement bah, ce type de montée aussi puisse un peu figer les coureurs et qu'ils attendent tous bah, l'étape reine pour pouvoir lâcher les watts, entre guillemets.
Oui et non, parce que si tu regardes le parcours, en fait, il y a une étape de plat, donc voilà, les sprinteurs, vous avez votre étape, commencez pas. Hein. Et ensuite, l'étape 2, ça arrive en haut de la Ciotat, c'est quand même presque 5 km à 7%, qui est précédé de la Brula, qui est 3 km à 7,4%. L'étape Rennes, qui arrive en étape 3, donc avec l'arrivée au chalet Reynard, alors certains disent c'est pas en haut du Ventoux, oui, enfin, c'est quand même 9,6 km à plus de 9%,
Oui.
c'est quand même énorme. Rappelez-vous l'an dernier, le moment Ventoux dénivelé challenge. Au chalet Reynard, il n'y avait plus que Bardet et Riou Serradar. Et là, je trouve qu'ils ont été intelligents. C'est que la dernière étape est une étape très vallonnée, mais qui se finit par un boss, et qui peut permettre à certains battus de la veille de tenter quelque chose
Tout à fait.
sur le faire que monter et descendre. Non, moi ça me plaît, c'est un peu l'héritier, le Tour de Provence, du
Si t'étais pour être placé à la fin, ça aurait peut-être été différent, mais effectivement, comme toi, je suis assez d'accord, le fait qu'ils en remettent une après et qui permet encore de pouvoir créer des différences, c'est assez intéressant. Et puis
Non,
pour
moi
les
je pense que.
sprinteurs, il y a encore Lankawi, hein, si vous voulez vraiment faire
Oui,
tourner les
mais non,
jambes.
mais alors, on a parlé du Saudi Tour, c'est que des arrivées au sprint qu'il y a eu. Il y a un faux pour tout le monde. Après, si les sprinteurs doivent partir au soleil, je pense qu'ils vont pas trop se plaindre non plus. Et puis, l'Algarve, où va y avoir des sprints. Autour de Valence, on a vu qu'il y avait eu deux sprints. En fait, je crois qu'on est
Même trois.
habitué à voir sur une épreuve de 7 jours un contre-la-montre, deux arrivées plates, une arrivée où les sprinteurs peuvent passer et y passent tout le temps, et avoir une étape vallonnée et une étape un peu plus dure. Non, mais tant mieux que ça change. On voit que le cyclisme a évolué. Il faut des parcours plus durs parce que les coureurs arrivent beaucoup plus en forme. C'est peut-être pour ça également qu'il y a des changements de parcours également. C'est normal, je pense. Il faut pas non plus tout donner. Sur un plateau, sprinter, c'est bon quoi. Tu n'aimes pas trop les sprints.
Bon, et eh ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire là pour l'actualité de cette semaine, une actualité quand même finalement, donc, comme on le disait, assez dense. Pour conclure, je vous propose allez, juste un petit pronostic simplement sur le tour de la Provence. Je pense que vous connaissez un peu mieux la liste des participants. Pour simplement me donner le vainqueur hein, de cette course. Donc, Greg, si tu veux bien te lancer.
Bon, je veux facile, allez, Pinot pour sa reprise.
Thibaut Pinot pour une reprise donc en convaincante. D'accord. Benjamin?
Ouais, je vais dire Pinot parce que je vais le voir cette année comme vainqueur du Tour de France et donc il doit l'emporter. Je vais dire par contre, pour étayer un peu, pour pas suivre seulement Greg, que dans le top 10, voire peut-être même dans le top 5, il y aura Aurélien Paré-Peintres. Et je vois qu'il y
Oui,
a Sivakov apparemment
qui enchaîne.
Oui, Sivakov est présent.
C'est vraiment très costaud.
Et
Bizarrement.
donc Grégory?
Bon, je vais changer un peu. Bon, j'aurais bien dit Pinot, mais je vais pas faire pareil. Donc je vais
Non.
changer, puis je vais choisir un certain Nairo Quintana qui était dans une forme très correcte au championnat de Colombie. Donc pour enchaîner sur un bon état de forme, on va dire, et pour montrer toute sa motivation dans sa nouvelle équipe Arkea Samsic, pourquoi pas.
Et toi,
D'accord.
Max?
Moi aussi, je vais apporter ma voix cette fois à Quintana. Je pense que l'équipe est bien motivée. Il aura en plus Barguil avec lui. Je vois bien le combien. Et puis, j'aurai un petit œil aussi sur la performance de Domenico Pozzovivo qui revient
Ah oui.
sur la course après donc sa grave blessure l'année dernière. Je le vois pas forcément gagner, pas du tout, mais voilà, j'aurai un petit œil quand même sur lui en espérant qu'il retrouve quand même un niveau correct après sa très grave blessure l'année dernière.
Ouais, il risque de falloir du temps quand même, hein.
Oui, c'est pour ça que voilà, je regarderai un peu sa performance sans m'attendre forcément à grand-chose, mais bon, en espérant quand même quelque chose de bien. Voilà. Bon, bien écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je vous remercie à tous, chers téléspectateurs,
Oh!
auditeurs, de nous avoir suivis. Pardon, oui?
Oui, un dernier truc que j'ai oublié de dire sur l'étoile de Bessèges, excuse-moi. J'ai bien aimé voir le petit poussé du cyclisme, je ne sais pas si on peut dire du cyclisme français, mais Cambodia Cycling Academy, qui était engagé sur l'épreuve et qui a essayé d'attaquer. Il y avait Samy Orignac sur la première étape dans l'échappée. Et ils ont essayé de se montrer, ça a été très compliqué, mais voilà, c'était juste pour dire ce petit mot, vu que c'est quand même une nouvelle équipe avec un projet original. C'est tout. Excusez-moi, Max.
Non, mais aucun problème. Un projet, effectivement, original. Peut-être pas aussi original que l'équipe des frères Jolidon,
Ça valait le coup, même si on ne tue.
Je sais pas.
Avignon, Monténégro.
Ouais, voilà. On fera peut-être une émission un peu sur tous ces projets, un peu ces équipes un peu étranges comme ça qu'on voit surgir parfois. Ça mériterait
Normalement,
presque une
ça se
émission.
fera pas.
Mais bon, voilà, écoutez, merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du dimanche. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.
Salut
Revoir.
tout le monde.